Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci de pouvoir nous réunir encore une fois cet après-midi pour que tu formes nos esprits par ta parole. Tu vois, nous avons tellement de choses qui sont faussées par ce que le monde nous apporte, faussées aussi par notre mauvaise interprétation de ce que tu dis, et nous savons que tu veux notre bien. Nous savons que tu veux nous faire avancer, alors nous mettons notre confiance en toi pour que vraiment nous puissions redresser ce qui est de travers dans nos esprits et aussi apprendre de toi pour qu'il y ait des changements dans nos vies, pour que nous puissions être plus en paix, que nous puissions être plus heureux, plus joyeux, que tu nous aides aussi à mieux exprimer ce que tu as mis dans nos cœurs, ce que nous avons dans notre cœur. Pour être plus vrai devant toi. Nous confions en toi pour ces moments, te bénissant parce que nous avons cette certitude que tu veux notre bien. Et c'est pour ça que te bénissons encore dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Voici donc, alors bonjour à chacun. Je vois qu'il y a des gens qui n'étaient pas là hier ou avant-hier. Voici donc le troisième volet de notre rencontre. Vendredi soir, nous avons parlé de la liberté. Hier soir, de l'autorité et aujourd'hui, des émotions. Et sans vouloir faire tout coller, il me semble que c'est intéressant de voir ces trois rencontres ensemble parce que agir en liberté me fait avoir de bonnes émotions et je peux le faire dans la mesure où j'ai bien conscience d'avoir autorité sur moi. Hein, voilà peut-être quelque chose de court qui nous permet d'avoir une ligne générale de vie. Hein, nos émotions découlent de quelque chose et si je fais les choses bien, alors je ressens justement des choses. On va le voir dans cet après-midi. Et pour faire les choses bien, il faut que j'ai bien conscience du fait que j'ai autorité sur ma vie. Hein, parce que Dieu me délègue quelque chose de son projet. Et c'est ce qu'on a vu donc hier soir. Voilà deux choses différentes, deux maximes. Ici un verset de l'Évangile selon Marc. Marc chapitre 3 verset 5 où le Seigneur Jésus donc a affaire à des personnes et il est écrit après les avoir regardés à la ronde avec colère étant attristé de l'endurcissement de leur cœur, Jésus dit etc. Et donc on remarque dans ce passage qu'il y a de la colère et de la tristesse. Et j'ai souvent entendu dire que le Seigneur Jésus avait des saintes colères, mais que nous, il ne fallait pas nous mettre en colère. Et je pense que ça sera bien de pouvoir préciser un peu ces choses. Je crois que le Seigneur Jésus a été homme en toutes choses comme nous, et que ce qu'il a été, c'est aussi une bonne image de ce que nous avons à être. Nous avons été faits à la ressemblance de Dieu. Et donc la colère fait partie des choses que nous avons à ressentir, et le tout est de savoir quand et comment est-ce que cette colère peut aboutir. La tristesse étant également quelque chose de normal, j'ai entendu aussi qu'un chrétien triste était un triste chrétien, et je ne crois pas que ce soit juste. La tristesse, il y a une tristesse selon Dieu, hein, par exemple 2 Corinthiens 7, 10 nous dit que la tristesse selon Dieu opère une repentance à salut de laquelle on n'a pas de regret. Donc il y a des tristesses qui sont justes, qui sont bonnes. Et donc voilà l'exemple du Seigneur Jésus qui a de la colère et de la tristesse. Alors ce sujet des émotions est un sujet complexe, comme d'ailleurs finalement tous les sujets qui traitent à notre vie de chrétien. C'est difficile de les aborder de manière complète, exhaustive, parce que c'est vite lourd, compliqué, et si on n'aborde pas tout, alors on est partiel, on risque d'être partial. Donc c'est pour ça que j'ai mis, si nous voulons réussir, ne faisons pas l'économie de nos échecs. Je n'ai pas voulu dire par là que je vous remercie à l'avance d'être patient avec moi pour vous faire une présentation incomplète, mais quand même, je crois que dans ce registre des émotions, il faut chercher à comprendre ce qui est juste, il faut chercher à poser des pistes plutôt qu'à affirmer des choses, la parole de Dieu étant, à mon sens, au niveau des émotions, suffisamment claire pour qu'on puisse affirmer des éléments qui nous soient bien utiles. Alors en vrac, Romains 12 nous dit que nous n'avons pas à nous conformer au siècle présent. Et je crois que le siècle présent, on parlait hier soir de perfection, avec ce que le siècle présent, personne n'est parfait, pouvait dire de différent à la parole de Dieu. Épaphras combat par des prières afin que vous demeuriez parfaits, Colossiens 4:12. Donc voilà ici quelques expressions du siècle présent qui vont nous permettre de voir dans une certaine manière ce qu'on dit dans le monde. Donc l'amour, à proscrire complètement, il ne va jamais sans émotion, les émotions nuisent à la régularité. Voilà l'affirmation de quelqu'un qui, en tout cas, on peut le dire, a envie d'être régulier. Alors, c'est sûr que la régularité est une bonne chose, mais ce n'est pas forcément un but en soi. Nous avons plutôt à être conduits par le Seigneur qu'à chercher à être régulier. On a plutôt à être conduits par le Seigneur qu'à chercher à être équilibré. Dire que les émotions nuisent à la régularité est peut-être vrai, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faille pas vivre les émotions. La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. Alors, voilà, c'est intéressant, surtout sachant de qui ça vient, c'est un constructeur de voitures, Honda. Et je crois que c'est juste. Les émotions étant importantes, mais on a lu hier soir à propos de l'autorité qu'il faut que le surveillant ou l'ancien ne soit pas adonné à son sens, ou littéralement trop adonné à son propre plaisir, à sa propre volupté. Donc l'émotion ne doit pas non plus être quelque chose de central dans nos perspectives. Tout est facile dans la vie, il suffit d'être logique et de contrôler ses émotions. Alors, je ne connais pas Madeleine Ferron, c'est une femme, et je l'entends, tout est facile dans la vie. Personnellement, je pense plutôt que tout est difficile, mais que tout est difficile parce que tout a de la valeur. Il suffit d'être logique, ça c'est vrai, il faut avoir du recul sur les choses, il faut comprendre quelle est la volonté de Dieu à l'égard de ce que nous avons à comprendre. Contrôler ses émotions, c'est une expression que je n'aime pas trop. Contrôler, on n'a pas à contrôler les émotions, on a à les vivre. Que le Seigneur, quand il a été en colère, il a été en colère, il a vécu sa colère. Quand il était triste, il a vécu sa tristesse. Ce contrôle ne me satisfait pas bien, voilà. Mais chacun peut aussi utiliser ses propres mots. Le style n'a aucune importance, ce sont les émotions que vous exprimez qui comptent. Bjork est une chanteuse, et le style n'a aucune importance, ce sont les émotions que vous exprimez qui comptent. Je pense que là, on est dans ce que le siècle a établi comme règle importante, et notamment depuis les années 80, où la communication a pris un essor important. L'émotion est quelque chose qui est essentiel dans la communication. Si quelqu'un parle de quelque chose mais qu'il ne ressent rien, alors dans notre société, on va dire que c'est quelqu'un à qui il manque quelque chose d'essentiel. De là à aller dire que le style n'a aucune importance, je ne suis pas d'accord. Ça voudrait dire que finalement, il n'y a pas de style en soi qui soit en quelque sorte objectivement valable. C'est un relativisme dans les repères, dans les critères. Et je crois que nous avons des valeurs qui nous viennent de Dieu et que ces valeurs sont... l'ensemble de ces valeurs se retrouve dans un style qu'on peut avoir. Et justement, si le style a une importance, mais on peut dire aussi que traditionnellement, dans notre milieu chrétien, comme dans l'histoire de l'Église, les émotions ont toujours été suspectes. Et il est bien qu'il y ait des gens qui nous disent que les émotions sont aussi importantes. Les femmes sont mieux adaptées que l'homme à la douleur. Elles vivent d'émotions et ne pensent qu'aux émotions. Alors là, c'est un homme qui a dit ça, et c'est dommage que ce ne soit pas une femme, parce que quand les hommes parlent des femmes, je me méfie toujours, vu que c'est difficile pour un homme de savoir ce que ressent une femme, et aussi le contraire, difficile pour une femme de savoir ce que ressent un homme. Maintenant que les femmes vivent d'émotions, je pense qu'il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de vrai dans ce que les femmes savent mieux, à mon sens, ce qu'elles vivent en tant qu'émotion. Les femmes savent mieux parler de ce qu'elles ressentent. En tout cas, les femmes parlent librement de ce qu'elles ressentent, alors que les hommes non. Et quand des femmes sont ensemble, on les entend parler de ce qu'elles ressentent assez librement. Quand des hommes sont ensemble, alors ils parlent de ce qu'ils font, mais ils ne parlent jamais de ce qu'ils ressentent ou de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. Donc voilà quelque chose qu'on peut éventuellement garder. Voici, Victor Hugo, comment le problème du mariage est posé. Le mari attend et veut la paix, le calme plat et l'épuisement. La femme rêve les émotions du commencement, les joies de l'âme, le mois d'avril, l'aube. L'un veut dormir, l'autre s'éveille. Alors, je crois que là aussi, il y a des choses qui vont sourire certaines personnes hier. On en a parlé dans la communication. Dans un sens, ces différences d'attente et de fonctionnement intérieur. Voilà, on s'y retrouve et on va peut-être essayer de voir dans deux, trois expressions de la parole de Dieu cette différence entre masculin et féminin. Mais voilà, vous le savez, j'ai aussi une présentation sur masculin et féminin par rapport à la parole de Dieu. Les femmes sont si avides d'émotions que la plupart d'entre elles préfèrent le malheur à la tranquillité. Alors, je ne sais pas si Madame du Deffand est une femme, mais il me semble, je n'ai pas fait de recherche sur la personne, mais en tout cas, si j'étais une femme, ça me serait curieux de lire ça. Hein, les femmes sont si avides d'émotions que la plupart d'entre elles préfèrent le malheur à la tranquillité. Voilà comment est-ce que je le comprends. C'est que, finalement... pour vivre émotionnellement, alors quelquefois, il vaut peut-être mieux, étant une femme, vivre dans le malheur que de ne pas avoir d'émotion du tout. Hein, c'est ce qui me semble comprendre. Mais c'est un petit peu caricatural, il me semble, ici. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a des différences émotionnelles sensibles entre mesdames et messieurs, entre les jeunes filles et les jeunes hommes, et donc on peut peut-être déjà en tenir compte. Alors, voilà des questions donc, qui m'ont été posées et auxquelles on va commencer par voir et puis auxquelles on va répondre au cours de la présentation. Je suis énervé, mécontent, irrité, fâché, j'en ai marre, je ne peux plus, je n'en peux plus de me retenir, je suis exaspéré, je suis en fureur, j'ai de la haine. Comme chrétien, ai-je le droit de me mettre en colère ou est-ce un péché? Alors, Éphésiens 4, 26, par exemple, nous dit « Mettez-vous en colère et ne péchez pas. » Donc, la réponse à la question « Comme chrétien, ai-je le droit de me mettre en colère ?» c'est « Oui. » Non seulement le droit, mais le devoir. « Mettez-vous en colère et ne péchez pas. » Donc, on verra cette expression plus tard. On peut déjà répondre de cette manière au fait que l'énervement, le mécontentement, l'irritation, le fait d'être fâché, l'exaspération, la fureur, la haine, sont des émotions ou des sentiments qui nous habitent et ce sont des choses normales, ou plutôt ce sont des choses qui ont leur justification en nous. C'est normal de vivre cet état d'âme, mais il faut savoir où est-ce que ça doit aboutir. Hein? C'est normal de le vivre et nous n'avons pas, nous, à contenir ce genre de choses, nous n'avons pas à l'ignorer, à le cacher ou à le nier. Quelles sont les différentes formes d'expression de la colère? Elles sont variées, on le verra après la grille de questions. Il y en a beaucoup, par exemple, la colère est souvent liée, par exemple, au fait d'être affamé. Hein, quand on est en colère, la Bible nous montre, par exemple, que le lieu des émotions, ce sont les entrailles. Quand le Seigneur est ému de compassion, l'expression grecque, qui est un verbe compliqué, parle d'être remué dans les entrailles. Et donc, les émotions sont liées aux entrailles, et donc il n'est pas anormal que quand on est en colère, qu'on ait faim, et qu'au contraire, quand on ait peur, on n'ait pas faim. Hein, c'est quelque chose qui agit sur les émotions. Donc voilà une forme d'expression. Une autre forme, par exemple, bouder, hein, se retirer, ne pas parler, est aussi une forme de colère. Donc on peut penser souvent ne pas être en colère, alors qu'on l'est, quand effectivement il y a ce genre de manifestation émotionnelle. J'ai grandi dans une famille, un milieu chrétien, où on ne manifeste pas trop ce qu'on ressent. La joie est surtout intérieure et jamais trop joyeuse. La tristesse est plutôt bien vue. Je m'y suis adapté. Pourtant, la Bible parle d'abondance de joie et de joie accomplie. J'ai parfois l'impression de passer à côté de l'essentiel et envie de changer. Comment faire ? De manière très générale, la compréhension de ce que c'est se réjouir nous est proposée dans l'Épître aux Philippiens. Et donc on n'abordera pas ce sujet-là dans la question des émotions. On verra surtout les émotions douloureuses, mais c'est vrai que se réjouir est quelque chose d'important et on pourrait le voir. Je vais quand même répondre courtement à cette question. Se réjouir, c'est accorder la valeur aux choses que Dieu leur accorde. C'est-à-dire que se réjouir, par exemple, dans une... Paul dit dans Philippiens 2,17 que même s'il sert de libation pour le sacrifice, c'est-à-dire qu'en fait, il sait que le sacrifice du Seigneur est quelque chose qui suffit amplement, mais lui, il est en prison, il sait qu'il risque de se faire décapiter en tant que citoyen romain, et il dit, même si je sers de libation pour le sacrifice, la libation, c'était un volume d'huile ou de vin que l'on versait sur le sacrifice, et on en versait quelques litres. Et donc, c'était pas grand-chose par rapport au sacrifice lui-même. Et il dit, si ma mort sert de libation pour le sacrifice, il dit, je m'en réjouis, et je m'en réjouirai. C'est-à-dire qu'il est en train de se dire, ma mort, ce que je suis appelé à faire de la part du Seigneur est quelque chose qui a de la valeur, et je m'en réjouis. Il dit, par exemple, en Philippiens 2, je crois, au verset 4, il dit, rendez ma joie accomplie en ceci que vous ayez une même pensée. Donc, en fait, le fait de voir ses frères et sœurs avoir une même pensée le réjouit. On voit ici très nettement que se réjouir, c'est estimer du prix que Dieu donne les circonstances que nous traversons. On se réjouit d'être ensemble, mais on se réjouit aussi d'avoir à combattre ensemble pour l'Évangile. On se réjouit d'avoir des choses difficiles à faire parce que ces choses-là sont importantes, elles participent de manière générale à l'œuvre de Dieu. Donc, une étude complète de l'Épître aux Philippiens permet d'avoir quelque chose de bien construit, de bien développé par rapport à la joie. C'est vrai que il y a souvent des traits familiaux, des traits, des habitudes familiales. Quand on a l'habitude, par exemple, de de ne rien dire à table, de laisser les grandes personnes parler, de ne pas éclater de rire. Alors il y a un trait familial, il y a des habitudes qui se prennent. Et après, quand on se marie, qu'on rencontre des habitudes différentes, il y a un peu des confrontations d'habitudes. Et ne pas manifester ce qu'on ressent, c'est souvent des habitudes. Il y a des familles où on est peu affectueux, on ne s'embrasse pas beaucoup, où on ne fait pas beaucoup de blagues, on ne rit pas. Et donc, c'est vrai que quand on est dans cette famille et qu'on a affaire à des gens qui ne se comportent pas comme ça, on ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien de rire. Et donc, on a peut-être des questions qui méritent d'être abordées. Il m'arrive de ressentir de la honte ou jalousie ou tristesse. Je sais que ce ne sont pas des sentiments chrétiens. Alors je prie que le Seigneur me délivre de ces sentiments négatifs, c'est juste ou pas. Je pense à ce passage d'Hébreux 12, le verset 3, où il est dit que le Seigneur Jésus, à cause de la joie qui était devant lui, a méprisé la honte et a enduré la croix. Il a méprisé la honte, c'est-à-dire qu'il a eu honte, en fait, de ce qui lui est arrivé. Et ressentir de la honte est quelque chose de normal quand quelque chose d'anormal survient, en quelque sorte. Le Seigneur Jésus était peut-être dépouillé de ses vêtements, peut-être nu sur la croix. En tout cas, il y avait devant lui sa maman, hein, il y avait ceux qu'il avait connus, dont Jean et puis des femmes. Donc, le fait d'être en quelque sorte, même insulté par ceux qui passaient, si tu es le Christ, descend de la croix, fait qu'on en a de la honte. Et donc, éprouver de la honte, c'est normal. Hein? C'est normal. Mais il est dit, mais cette honte doit nous servir à quelque chose. On verra que les émotions, à mon sens, sont la partie irrationnelle du langage. Avec mon émotion, je vais comprendre quelque chose. Et l'épître de Pierre nous dit que si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Hein, donc, il y a une honte qui peut surgir, et qui peut surgir parce qu'on pourrait se dire « Oh là là, ça y est, dans un groupe, on a découvert que je suis chrétien ou je ne voulais pas le dire parce que, pour tout un tas de raisons, et les choses sont donc manifestées, et moi, je n'ai pas à avoir honte. Hein. Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu. » Hein, Romains 1, verset 16-17, je crois que là, on voit bien que notre émotion, elle peut être présente, mais que nous avons cette capacité de faire quelque chose par rapport à l'émotion. Ce n'est pas la contrôler, mais c'est la vivre. Et pour ce qui relève de la honte, quand j'ai honte, c'est un sentiment de chrétien, puis c'est un sentiment humain. C'est un sentiment qui fait partie de notre nature humaine, et que nous avons vivre de manière spirituelle et non de manière charnelle. J'en profite pour dire qu'il ne faut pas confondre l'humain et le charnel, de la même manière qu'il ne faut pas confondre le terrestre et le mondain. Hein, ce qui est de la terre n'est pas mauvais, ce qui est mauvais c'est ce qui est du monde, de l'esprit du monde qui est le système organisé contre Dieu. Et donc je n'ai pas moi à vivre mes émotions de manière charnelle, mais je les vis de manière humaine, elles sont dans mon humanité et nous avons à être dans notre humanité tout à fait à notre place. Quand on a honte parce qu'on a mal fait, alors ce sentiment il est utile parce qu'il nous éveille en fait pour réagir par rapport à notre culpabilité. Donc ce sont des sentiments que nous avons à reconnaître. Et alors il faut prier que le Seigneur nous délivre de ces sentiments négatifs, je ne crois pas que ce soit juste. Nous pouvons prier pour que le Seigneur nous aide à comprendre ce que nous avons à faire. Mais le sentiment, d'abord le sentiment n'est pas négatif, il est douloureux, plutôt c'est douloureux d'avoir honte, mais ce n'est pas anormal. Quand j'ai mal fait, c'est normal que j'ai honte. Mais le Seigneur, en fait, m'amène à prendre conscience de ce qui est à l'origine de ma honte. Et si je n'ai rien fait de mal pour avoir honte, alors je méprise la honte, je dis non, je n'ai pas de raison d'avoir honte. Si par contre j'ai des raisons d'avoir honte, à ce compte-là, je vais agir là où j'ai un levier, c'est-à-dire dans le fait, par exemple, d'affirmer ce qui est juste. Non, j'ai à confesser telle et telle chose que j'ai faite, et j'ai à ce que la chose soit réglée entre Dieu et moi. Donc, le Seigneur ne me délivre pas du sentiment, le Seigneur me conduit dans une action intérieure dans laquelle je vais revenir à des sentiments normaux. Et donc, la honte est un sentiment ou une émotion qui est utile, comme toutes les émotions dont le Seigneur Jésus nous a pourvus, l'orgueil, la jalousie, la tristesse, et la joie, la paix, la sérénité, et d'autres choses, et à moi de les vivre avec le Seigneur. Le dimanche, je chante « Oui, dans la sombre nuit, ta bonté me conduit, j'irai sans peur. » Et le reste de la semaine, j'ai peur. Peur de ne pas y arriver et de ne pas être à la hauteur de ce que Dieu, mon mari, ma femme, mes parents, les frères, mon chef, attendent de moi. Peur d'une maladie grave, d'un accident, de vieillir. Peur pour mon avenir, pour celui de l'assemblée dont je fais partie. Est-ce normal pour un chrétien d'avoir peur? Donc là aussi, la peur fait partie d'un bouquet d'émotions qui nous sont... Qui indique quelque chose. Quand les disciples sont dans la barque et que le Seigneur vient vers eux, il leur dit n'ayez point peur, n'ayez point de crainte. Mais il est là pour leur montrer comment sortir de la peur. Et lui, il va parler au vent et il va apaiser le vent. Il va montrer que lui a tout ce qui concerne la puissance de la création dans sa main. Donc il va leur montrer une raison suffisante pour qu'ils n'aient pas peur. Donc, il ne leur reproche pas d'avoir peur. La peur est un sentiment qui a son utilité et qui, le plus souvent, ça, il faut bien le noter, mais on le verra tout à l'heure, nous montre, correspond à la capacité que nous nous attribuons. Si j'estime que je peux faire quelque chose quand le Seigneur m'appelle à le faire, alors je n'ai pas peur. Si j'estime, par contre, que je ne serai pas à la hauteur, si je pense que je ne pourrai pas le faire, alors c'est là où j'ai peur. Et la timidité est une forme de peur. Et Apocalypse 21, verset 8, nous dit que les timides n'entreront pas dans la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Eh bien, il me semble que dans ce moment, qui à mon sens parle du millénium, du règne, hein, dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura le peuple d'Israël, donc nous mettons dans sa capitale, et il y aura l'Église qui sera revenue avec le Seigneur, quand nous dit 2 Thessaloniciens 1, 10, qu'il reviendra avec tous ses saints et qui sera là pour l'administration de son royaume. Alors je crois que ceux qui seront là seront des personnes qui seront pleinement conscients de ce que le Messie est venu faire, apporter, donner, et qu'il n'y aura pas de timide, il n'y aura pas de personne qui sera dans la méconnaissance profonde de ce qu'elle est. L'Église qui reviendra avec le Seigneur aura des corps glorifiés à la dimension de ce qu'est aujourd'hui le corps du Seigneur Jésus, qui a été vu par bon nombre de personnes, 500 frères, comme nous dit Paul dans 1 Corinthiens 15. Alors, donc, avoir peur, aujourd'hui, est quelque chose qui nous révèle l'appréciation que nous portons, et c'est pour ça que, par exemple, 1 Jean 4, 18 nous dit « L'amour parfait chasse la peur ou la crainte », du grec « phobos », qui a donné phobie, qui n'est pas une petite peur, qui est quelque chose d'important. Donc, quand j'ai peur de quelqu'un, par exemple, pourquoi est-ce que j'ai peur? C'est peut-être parce que j'ai peur de me découvrir, de me faire connaître. J'ai peur du jugement de quelqu'un. Mais alors, si je suis en train de l'aimer, si je suis en train de m'ouvrir à cette personne, d'être véritablement en relation avec cette personne, alors je n'ai pas de raison d'avoir peur, parce que je ne suis pas en train de m'occuper du jugement qu'elle peut avoir sur moi. Si je suis occupé du jugement qu'elle a sur moi, et si j'ai peur de cette personne, alors c'est que je ne suis pas en train de l'aimer, je ne suis pas en train de l'accueillir. Et donc là, on voit que cette peur, dans un sens, est là pour me montrer quelles sont mes pensées profondes à l'égard de la personne, et c'est là où la peur est aussi un sentiment utile, hein, une émotion utile. J'envie ce frère, cette sœur, il ou elle est toujours réellement câble, zen, rien ne semble pouvoir l'affecter, j'aimerais bien, comme lui ou elle, être délivré des émotions qui me submergent trop souvent. Est-ce bien, est-ce juste de pouvoir ainsi maîtriser ses émotions? Donc, au passage, quelques petites parenthèses qui ne font pas de mal. Envier quelqu'un, ça ne sert à rien. Admirer quelqu'un, ça ne sert à rien. Hein? Je crois qu'on peut reconnaître chez quelqu'un quelque chose qui est bien, mais ce qu'il faut, c'est saisir toutes les bénédictions que Dieu nous donne. Hein? Si on a, comme nous le dit Malachie, si on met Dieu à l'épreuve et que on apporte notre dîme à la maison de l'Éternel, c'est-à-dire qu'on se consacre, qu'on s'implique et qu'on met Dieu à l'épreuve pour qu'il nous bénisse, alors il le fera jusqu'à ce qu'il n'y ait pas assez de place. Et donc, souhaiter devenir comme quelqu'un, ce n'est pas un bon but. Hein, ce qu'il faut, c'est devenir ce que le Seigneur nous appelle à devenir. Et donc, on n'a pas à envier quelqu'un. Par contre, quand quelqu'un est toujours calme, alors on peut lui dire, mais s'il te plaît, dis-moi, comment est-ce que tu fais pour être calme comme ça? Et parce que le calme, c'est pas quelque chose qui vient naturellement, c'est pas quelque chose qui vient comme ça, c'est quelque chose que l'on obtient. Et donc, j'aimerais bien, comme lui ou elle, être délivré des émotions qui me submergent trop souvent. C'est vrai que nous n'avons pas à être submergés de nos émotions, nous avons à vivre nos émotions. Alors j'espère qu'après cette présentation, les choses seront peut-être plus claires pour ceux ou celles qui sont submergés par leurs émotions, ou à l'inverse, pour ceux ou celles qui, dans un sens, ne les vivent pas, hein, qui ont du mal aussi avec cela. Quelques synonymes pour les émotions, donc agitation, bouleversement, désarroi, secousse, trouble, angoisse, crainte, peur, impression, sentiment, excitation, sensation, frisson, enthousiasme, plaisir, ravissement, passion, mouvement, exaltation, inquiétude, transport. Pourquoi ces synonymes? C'est parce que plus nous saurons discerner ce que nous vivons émotionnellement, plus nous pourrons comprendre des choses pour ce qui nous concerne et pour ce qui concerne les autres. Si par exemple, je m'approche de quelqu'un et je lui dis, tu sais, je t'aime. Quelque chose de très, soit de très absurde, qui est le ton de ma voix, hein, soit de très masculin, ça je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le dire, mais de très absurde, parce que si je dis à quelqu'un, tu sais, je t'aime, il ne faut pas que je le dise d'une voix plate, et l'émotion est là pour communiquer quelque chose aussi. Et donc, quand quelqu'un nous communique quelque chose, l'émotion donne du relief à la pensée. L'émotion est quelque chose qui va nous permettre de comprendre l'autre. Et souvent, c'est par l'émotion qu'on va comprendre les choses. Et si on n'est pas sensible à ces choses, si on n'est pas ouvert à ces choses, alors il pourra nous manquer beaucoup de choses. Voilà une grille, ici, d'émotions qui nous permettent de mieux les décrire. Et on voit, par exemple, dans la colère, que... par exemple, l'amertume, ici, est une forme de colère. Hein, c'est quelque chose, quand on ressasse d'intérieur, l'amertume, et c'est quelque chose qu'on peut vivre, être énervé, envieux, hein, voyez, être affamé, être hystérique, être jaloux est une forme de colère. Hein, quand on est jaloux contre quelqu'un, c'est qu'en fait, dans un sens, on est en colère contre soi, de ne pas avoir ce que l'autre a, et on peut aussi être en colère contre l'autre. Être mesquin est une forme de colère. On est mesquin parce qu'on calcule, parce qu'on réduit en fait ce qu'on pourrait donner comme cadeau, et donc il y a également là une forme de colère. Hein, quand on se sent trahi, on est aussi en colère contre quelqu'un. La déception est une forme de colère. La suffisance est une forme de colère. Quelqu'un de suffisant, quelqu'un qui penserait être tout à fait bien tout seul et qui n'a pas besoin de relation avec les autres, c'est quelqu'un qui manifeste à sa manière une colère contre les circonstances, contre Dieu, contre lui, de différentes manières. Alors ces émotions nous prennent, hein, elles nous prennent un peu comme cette image, hein, que maman a mise sur son blog, et que voilà quelque chose qui quand ces émotions de peur, colère, tristesse nous habitent, alors elles sont là pour nous indiquer un chemin à prendre, elles sont là pour qu'on réagisse quand je me sens faible, quand je me sens démuni, quand je me sens nerveux, c'est là pour que je comprenne que de manière générale, tout ce qui me parle de peur, correspond au regard que j'ai sur moi et un regard de dévalorisation générale. Je ne prends pas dans ma main les capacités que Dieu me donne, alors j'ai peur. Quand je ressens de la colère, c'est que en fait mon but est bloqué par quelqu'un et que je ne comprends pas que finalement, quand Dieu m'appelle à faire quelque chose, alors personne ne peut bloquer mon but. C'est simple, mais c'est tellement important. Hein, finalement, la colère, on le verra plus en détail après, mais je passe plusieurs couches dans un sens. La colère va monter quand mon but sera contrarié, si je veux que l'assemblée soit comme ceci, que ma famille soit comme cela, que mon conjoint soit comme cela, alors mon but sera contrarié, je vais être en colère. Mais si je mets en œuvre ce que Dieu me demande, alors je n'ai pas de raison d'être en colère. Par contre, si je vois quelqu'un faire quelque chose qui ne convient pas, alors là, je dois me mettre en colère. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Mais ici, la colère sera l'indignation face à l'injustice et ne proviendra pas d'un but contrarié. Alors pour l'instant, c'est peut-être un peu complexe, un peu inhabituel comme discours, mais on va y rentrer. Il me semble que la joie, ici, la joie peut manquer. Hein, comme on l'a vu tout à l'heure, se réjouir est aussi une action. Et dans un jardin, il peut y avoir des jolies plantes et des mauvaises herbes. Et donc nous, Paul dit aux Galates, hein, on l'a vu par rapport à la liberté, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un individu sème, cela aussi il le récoltera. Donc en fait, nos pensées sont un peu comme un jardin intérieur, et ce que nous allons semer, nous allons aussi le récolter. Et donc, à nous de semer des bonnes plantes pour récolter des bons fruits, mais si nous laissons venir des plantes qui ne sont pas des plantes choisies, des choses qui ne sont pas de Dieu, alors dans notre jardin, il y aura des belles choses avec les jolies plantes et il y aura des mauvaises choses. Et on peut dire que dans notre jardin, il peut y avoir des mauvais fruits, ici, peur, tristesse, colère, des fruits douloureux et des bons fruits. Mais pour qu'il y ait des bons fruits, pour que je sois en communion, pour que je sois en harmonie, pour que je sois agréable, il faudra forcément que je travaille à quelque chose, que je fasse aussi des bonnes choses. Alors, ma télécommande ne marche plus, c'est pas grave, je vais appuyer avec la main. Voilà, l'étymologie. L'émotion vient de motere, hein, qui veut dire mouvement, et le sentiment vient de sentir, et donc on voit avec ces deux étymologies quelque chose de peut-être de fondamental. L'émotion, c'est le mouvement de mon être à l'intérieur. Corinthiens 4:16 nous parle de deux réalités, l'être extérieur, le corps, et l'être intérieur, l'être invisible. Et nous dit que si toutefois notre être extérieur dépérit, le corps, l'être intérieur est renouvelé de jour en jour. Éphésiens 3:16 parle aussi du fait que l'être intérieur est fortifié en puissance. Et donc l'être intérieur, c'est quelque chose de complexe, hein, qu'on a du mal à définir. On peut dire que dans l'être intérieur, il y a l'âme et l'esprit, par exemple. Hein, dans Hébreux 4:12, on voit que la parole de Dieu, la parole qui nous parvient, cette parole de connaissance qui nous vient de la part de Dieu, nous permet de faire la distinction entre l'âme et l'esprit. Et il me semble que dans cette formulation, il y a l'esprit qui est le siège de la rencontre avec Dieu, et l'âme, dans ce verset-là, qui est la faculté que nous avons de vivre de manière autonome. Comme si notre animation, notre vie, puisqu'en grec, âme, c'est psyché, qui veut dire vie, et qui a donné psychique, comme si notre vie nous était suffisante. Et donc, quand l'esprit de Dieu vient dans notre être intérieur, alors il y a en fait une confrontation entre ce qui provient de notre propre pensée, de notre volonté propre, et ce qui vient de la parole de Dieu. Et donc la parole de Dieu permet de faire cette distinction entre l'âme et l'esprit, et nous permet de faire le choix, en fait, de ce qui est vrai. Alors l'âme, les états d'âme, il y a dans l'être intérieur un ensemble de choses, et notamment un mouvement de l'âme que je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais que par exemple le Nouveau Testament dans le grec appelle le thumos. Et l'épithumia, l'épi c'est sûr, et le thumos c'est le désir ou la convoitise. C'est le mouvement de mon âme qui va sur quelque chose. Et donc, l'émotion ou le sentiment, à mon sens, sont deux réalités, deux expressions différentes qui caractérisent la même chose. L'émotion caractérise le mouvement de mon âme et le sentiment caractérise ce que je vais ressentir de moi-même. On pourrait penser que l'émotion est plus superficielle, le sentiment plus profond. Bon, après, à chacun de l'appeler comme il le voudra. Personnellement, je ne crois pas que ce soit très important. Mais voilà, en tout cas, comment identifier ce qui nous habite. L'hébreu parle de tremblement intérieur, de soupir, de feu, à propos de la femme qui était devant Salomon, et son jugement terrible, hein, ce jugement de Salomon de couper le bébé en deux. Il parle d'agitation dans ce qui se passe avec Ruth, Orpa, Naomi, de hurlements, de troubles dans le Cantique des Cantiques à propos de la Sulamite qui a raté son rendez-vous avec son bien-aimé. Donc il y a des choses intérieures qui relèvent de l'agitation. Le grec parle d'entrailles remuées à propos du Seigneur face à la foule qui avait faim, de violence intérieure à propos du Seigneur face aux souffrances liées à la mort. Le mouvement vert, épithumia, donc je vous en ai parlé, et au passage il y a un seul mot pour convoitise ou désir. Dans Matthieu 5, 28, c'est « car je vous dis que quiconque regardera une femme pour la convoiter dans son cœur comme un adultère. » Et Luc 22, c'est « j'ai fort désiré manger cette Pâque avec vous. » Et donc le mot « épithumia » est traduit dans Matthieu 5 par « convoitise » et dans Luc 22 par « désir ». Et donc ça montre bien que le mouvement de notre âme est un mouvement naturel, un mouvement normal. Par contre, ce qui va différencier le désir de la convoitise, c'est la légitimité de la chose que je vais désirer. Hein, si cette chose-là est légitime, alors je ne convoite pas. Hein, c'est un désir normal. Hein, et donc, quiconque regardera une femme pour la convoiter, quiconque regardera une femme qui n'a pas à être, qui est déjà quelqu'un, j'allais dire qui appartient, c'est un mot un peu mal trouvé. Hein. Quand une femme s'est engagée avec quelqu'un, alors elle n'est pas libre, et donc un homme n'a pas à la regarder pour la convoiter si elle n'est pas libre. Par contre, quand un jeune homme non marié voit une jeune fille non mariée et qu'il la regarde pour la désirer, alors là, il n'y a pas de problème. Hein, voilà donc ici une description d'un mouvement de l'âme vers quelqu'un ou vers un événement. Le Seigneur Jésus dit « j'ai fort désiré manger cette Pâque avec vous avant que je meure ». Sans décrire ces manifestations, la Bible montre clairement ce qui habite notre être intérieur et il est normal que nous les vivions. Peut-être que c'est un peu rapide comme conclusion, il est normal. Il me semble qu'en tout cas, en regardant le Seigneur Jésus vivre ses émotions, on peut dire « il est normal » que ces émotions soient vécues. Allons plus loin dans la réalité biblique. Elles sont donc présentes et reconnues dans la Bible. Éphésiens 4, 26, « Mettez-vous en colère et ne péchez pas. » Jean 15, verset 11, c'est « Je vous ai dit ces choses. Hein, » C'est le passage où le Seigneur Jésus parle du fait de demeurer en lui comme nous sommes, nous, les sarments attachés au cep. Et donc, le Seigneur Jésus parle d'un ensemble de commandements de la part du Père, et il dit « je vous ai dit ces choses, donc ces commandements, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ou complète ». Donc voilà des émotions, même dans la bouche du Seigneur. La tristesse, Marc 14, 34, je ne me souviens plus de ce que ça dit. Dans Marc 14, c'est le reniement de Pierre. Donc, alors là, c'est la tristesse du Seigneur. Hein, Marc 14, 34, il leur dit « mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort ». Hein, voilà. Et puis la crainte, 1 Jean 4,18, hein, où on a déjà entendu que l'amour parfait chasse la crainte. Donc voilà des émotions qui sont présentes et qui ne sont pas condamnées. On ne nous reproche pas, en fait, d'avoir de la colère, de la joie, de la tristesse ou de la crainte. Ces émotions sont montrées clairement chez le Seigneur Jésus. Elles ont donc leur utilité et leurs limites. Et donc on va voir à la fois ce qui relève de leur utilité, ce qui relève de leurs limites. On va voir ces choses dans un cadre général des épîtres, comme on l'a déjà fait pour la liberté, puis l'an dernier aussi, je crois, pour voir dans les Corinthiens ce qu'il en est. Donc, on voit ici, par exemple, dans l'épître aux Romains, que c'est la justice, on l'a vu avant-hier, que c'est la justice en nous qui produit la paix à l'égard de quelqu'un. Au passage, nous avons la paix avec Dieu, mais nous sommes sereins par rapport aux circonstances. Trouver la paix, c'est trouver la paix avec quelqu'un, et être serein, c'est être serein par rapport aux circonstances. Alors quand, dans les Romains, je comprends comment trouver la paix et comment ne pas être en colère, je comprends que c'est en n'ayant pas de but bloqué. C'est le but bloqué qui produit la colère, mais quand mon but est d'être réconcilié avec Dieu, alors je peux dire, hein, ayant été justifié sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc ici, mon but est de montrer comment ce sentiment, cette émotion qui participe plus ou moins à mon bonheur, peut se trouver dans une attitude intérieure. Ici, quand mon but est bloqué, alors j'aurai de la colère. Quand, on l'a vu dans l'Épître aux Galates, quand mon but est contraint, quand je suis obligé de venir aux réunions de l'Assemblée, quand je suis obligé de demander pardon, quand je suis obligé de faire plaisir, etc. Alors, quand je suis obligé, j'en ai de la frustration. Au contraire, l'Épître aux Galates nous montre que dans la liberté, alors s'exprime le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la joie, la paix, etc. On est conduit par l'Esprit et on est nourri de ce que l'Esprit va produire en nous. On a vu tout à l'heure que en dépréciant les choses, on en aura de la tristesse. Paul appelle à apprécier selon un juste regard, et c'est dans l'Épître aux Philippiens qu'on va trouver cette réalité de comment trouver la joie. Donc on pourrait dire que finalement, vivre le bonheur auquel Dieu nous appelle, c'est agir de manière responsable en trouvant la paix, en trouvant le plaisir, en trouvant la joie et en trouvant tout cela. C'est en se donnant des buts inaccessibles que, par exemple, je vais, moi, produire en moi de l'insatisfaction, alors que l'Épître aux Colossiens va nous montrer comment, justement, être parfait, comment vivre simplement ce que Dieu nous appelle à vivre, et c'est-à-dire faire ce que Dieu nous appelle à faire. Donc, si je rentre dans un but accessible, si je fais ce que je dois faire, alors j'en aurai de la satisfaction. Il faut noter à cet effet que le mot satisfaction ne se trouve qu'une fois dans le Nouveau Testament, c'est à la fin de Colossiens 2, dans une dimension péjorative, hein, pour ces gens qui ont des commandements légaux, hein, ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas, et qui sont pour la satisfaction de la chair. Donc, intéressant de voir qu'il y a une certaine cohérence dans l'usage des mots, et que peut-être dans l'Épître aux Colossiens, le mot satisfaction n'est pas mis en avant, parce que ce qu'il nous faut faire, ce n'est pas chercher à être satisfait, hein, pour être heureux, mais c'est chercher à mettre en avant des buts accessibles, qui sont les buts que Dieu nous appelle à avoir. Un but indéfini nous apporte de la fébrilité. Quand les choses sont incertaines, alors on ne sait pas bien que faire. Et à l'inverse, dans l'Épître de Pierre, dans sa première Épître de Pierre, qui nous parle de souffrance et d'obéissance, alors les choses sont très claires. Hein, on a, nous, à poser les choses, on a à les comprendre autant que cela nous est donné. Et donc, quand le but est bien défini, alors c'est là où je trouve la sérénité. Et il est intéressant de faire une étude de l'Épître de Pierre avec le fil conducteur de l'obéissance ou avec le fil conducteur de la souffrance. Et c'est là où on trouve cette réalité de la sérénité qui n'apparaît pas comme telle. Hein, le mot « serein » ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, mais on comprend qu'en étant obéissant face à la souffrance, alors on est dans un état intérieur qui honore Dieu. Et puis, on peut dire qu'un but incertain nous fait avoir peur. Hein, quand le but est incertain parce que je ne suis pas certain de pouvoir y arriver, parce que je ne m'estime pas capable d'y arriver. Et ce sont les épîtres de Jean qui nous montrent que Dieu nous appelle à être dans sa sécurité, à demeurer. Le mot « demeurer » se trouve 20 fois dans les épîtres de Jean et 40 fois dans les épîtres. Donc il y a une importance à attribuer à ce mot-là. Et donc nous montre comment, en fait, ressentir de l'amour par rapport à quelqu'un dans la mesure où notre but n'est pas incertain, dans la mesure où nous sommes appelés à demeurer avec quelqu'un, à connaître quelqu'un, à faire du bien à quelqu'un et à faire à Dieu ce que nous faisons à notre frère et à nous-mêmes. Et donc, voilà ici un programme des épîtres vu d'une manière particulière, pas de toutes les épîtres, puisqu'il n'y a pas les épîtres fondamentales et les épîtres qui parlent de l'action, mais ici, donc, ces épîtres qui nous proposent de réfléchir à l'importance de l'émotion, du ressenti dans le programme du bonheur. C'est quand même important de dire que l'évangile de Matthieu est structuré sur 5 discours et que ce sont les discours du roi. Le premier discours nous parle de son programme, le dernier discours nous parle du fait qu'il va partir mais qu'il reviendra. Et donc le programme du roi, c'est bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux ceux qui mènent deuil, etc. Donc il y a les béatitudes et le programme du roi est un programme de bonheur. Alors si nous voulons vivre intérieurement le bonheur, alors voilà ici des leviers qu'il ne faut pas avoir. Hein, avec Dieu, il n'y a pas de raison d'avoir des buts bloqués, contraints, dépréciés, inaccessibles, indéfinis ou incertains. Mais au contraire, en creusant ces sujets et en les faisant de manière particulière dans les épîtres correspondantes, alors on peut trouver en nous ces émotions, on peut les renouveler. Et c'est comme ça, je pense, qu'il faut entendre Marie, aimer vos propres femmes. Marie, demeurez dans un but relationnel, dans un but certain, dans un but défini, dans un but que vous aurez bien compris et dans un but qui fera qu'il n'y aura pas de place pour la peur, il n'y aura pas de place pour ce qui est incertain. De même que les scientifiques envisagent la pensée avec deux pôles différents, la Bible nous montre ces pôles rationnels et émotionnels. Et on voit par exemple ces pôles dans un verset ici. Je ne veux pas, 1 Thessaloniciens 4:13, je ne veux pas que vous soyez ignorants, pôle rationnel, à propos de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas affligés, pôle émotionnel.